Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Gérald Bronner.
Bonjour.
Professeur de sociologie, vous travaillez depuis des années sur les croyances collectives et les thèses complotistes. Apocalypse cognitive, qui paraît au PUF, est votre livre le plus ambitieux et aussi le plus pessimiste. Il arrive après une année de crise sanitaire et de confinement qui a été un incroyable accélérateur d'irrationalité à cause du temps passé sur Internet à lire n'importe quoi. Et 2021 commence fort avec les événements de Washington. Est-ce que l'insurrection du Capitole avant-hier n'est pas la démonstration que l'irrationalité peut conduire au fascisme ?
En tout cas, ces événements effectivement sidérants, ils nous ont tous sidérés, et c'est la preuve, je crois, en acte, que les épidémies de crédulité ne sont pas seulement confinées sur les réseaux sociaux, que parfois elles s'incarnent politiquement, alors là, dans cette pseudo-insurrection, d'autres fois dans la méfiance vaccinale, et en effet, quand tout à coup cette rage qui est sans programme politique. C'est ça qui est intéressant, parce que ce qu'on a vu, c'est des gens qui envahissent le Capitole, et une fois qu'ils y sont, bon, ça montre quand même la fragilité de certaines institutions, même aux États-Unis, mais ils ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire qu'ils se prennent en photo, ils font des selfies, ils s'installent dans les bureaux. Il y a quelque chose d'un carnaval un peu vide, et cette rage qui est bien réelle, elle est sans programme politique, mais elle n'est pas sans récit. Il y a donc bien un récit derrière cela, celui des élections volées. Et puis on a vu surtout que la colonne vertébrale de ces individus, eh bien c'était de cette radicalisation d'une partie de l'électorat républicain. C'est le mouvement QAnon, dont on sait qu'il est conspirationniste. Et avec cette figure de Jack Angeli, qu'on a tous vu, ce monsieur avec ses cornes-là, le corps tatoué de symboles très signifiants, et qui représente comme ça la figure saillante et grimaçante de cette radicalisation.
Et des gens qui n'agissent pas seulement, contrairement à d'autres crises ou mouvements populaires, en fonction de leurs propres intérêts, c'est-à-dire qu'ils ont des croyances, ils y croient sincèrement, ils croient sincèrement à ce qu'ils disent, et sans doute peut-être même que Trump croit aussi lui-même, au fond de lui-même, qu'il a réellement gagné l'élection et que ce succès lui a été volé.
Alors je dois vous dire que je suis plutôt d'accord avec vous, effectivement. J'aurais pas forcément dit ça il y a 2 ou 3 semaines. J'aurais misé sur un cynisme politique insupportable de Donald Trump. Mais en écoutant, je sais pas si vous l'avez fait, l'intégralité
Absolument.
Des échanges qui durent à peu près une heure.
Publié par le Washington Post.
Voilà, le secrétaire d'État à l'État de Géorgie, eh bien on découvre en effet que très probablement, il croit à toutes ces billevesées et qu'il pense vraiment avoir été dépossédé. Alors vraiment l'enjeu, je pense, pour les États-Unis, la politique américaine, ce qu'on appelle le Trumpisme, qui n'est pas vraiment un programme, qui est plutôt une rage, c'est de savoir comment ces thèmes, ces narrations vont essaimer. Et on a des enquêtes qui montrent qu'un certain nombre de thèmes n'essaiment pas dans l'opinion publique, par exemple l'idée selon laquelle il y aurait des réseaux pédophiles, sataniques, ça reste très minoritaire, mais par contre, ce qui devient majoritaire, c'est l'idée d'un État profond, le Deep State, c'est-à-dire une idée très dangereuse pour la démocratie, qui nous dit que grosso modo, le jeu politique n'est fait que d'apparence. Ceux qui ont vraiment le pouvoir sont en deçà, c'est genre des rideaux, l'état profond. Et en l'occurrence, ça permet à Donald Trump de dire que tous ces échecs ne sont pas dus à lui, mais dus au caractère malveillant de ceux qui ont vraiment le pouvoir. Et ça, c'est une forme de dynamite, n'est-ce pas, pour la démocratie.
J'en viens à votre livre, Gérald Bronner, « Dans la démocratie des crédules », paru il y a 8 ans, vous vous demandiez déjà pourquoi la libre circulation de l'information et la hausse du niveau d'études ne conduisaient pas nos sociétés vers une forme de sagesse collective. Dans ce nouveau livre, « Apocalypse cognitive », vous allez plus loin en parlant de menaces sur notre civilisation, en expliquant que ce phénomène révèle de la nature humaine, de notre nature profonde. Mais d'abord, le point de départ, si l'homme est un animal pensant, il n'a jamais eu autant de temps pour penser, communiquer, s'informer, se distraire dans toute l'histoire de l'humanité.
Oui, alors ça, c'est parce que je n'annonce pas que des mauvaises nouvelles. Moi aussi, je suis un optimiste, en fait, Patrick, même si ça ne se voit pas.
Oui, mais enfin, la tonalité complète du livre, on y viendra.
Alors,
oui.
En tout cas, la première bonne nouvelle qu'il faut rappeler, c'est qu'en effet, on n'a jamais eu autant de disponibilité mentale, en quelque sorte. Si on retire le temps sur 24 heures, qu'on retire le temps de travail, le temps biologique du sommeil, etc., on a un temps à consacrer, par exemple, à la culture scientifique, à la littérature, à écouter des œuvres musicales. C'est du moins ce qu'on espérait, notamment. C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir en écoutant un discours de Jean Perrin, qui était prix Nobel de physique, mais aussi ministre, et qui annonçait, prophétisait, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, voilà, un avenir radieux. Alors, il avait raison sur le premier point, donc une disponibilité mentale qu'on peut évaluer à la louche, si je puis dire, approximativement, ouais, qui a beaucoup augmenté. On a à peu près 8 fois plus de disponibilité mentale qu'au début du 19e siècle. En tout cas, on en a plus, considérablement, mais pour faire quoi? Et c'est bien le problème, c'est que cette disponibilité mentale, elle rencontre un autre phénomène technologique majeur, qui est en quelque sorte la dérégulation du marché de l'information, c'est-à-dire une disponibilité jamais atteinte dans toute l'histoire de l'humanité et la possibilité pour chacun d'entre nous de donner notre point de vue. Alors ça crée une cacophonie mondiale, ce qu'on pourrait presque appeler un cocktail mondial, vous savez, où il y a un brouhaha permanent. Et ce que je constate, c'est que certaines propositions intellectuelles, elles ont la vertu ou le désavantage, selon l'endroit où on se place, d'attirer notre attention plus que les autres. La crédulité, vous l'avez bien dit, c'est une des facettes seulement du phénomène. Parce que pendant longtemps, on a cru que sur un marché libre des idées, finalement, à terme, ce seraient les meilleures idées, les plus rationnelles qui s'imposeraient.
C'est ce que pensait votre maître Raymond Boudon.
Absolument, et sur ce point, je suis obligé d'être un peu en désaccord avec lui.
Voilà, qui était un grand sociologue.
Grand sociologue
libéral.
Français, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Mais effectivement, ou Thomas Jefferson, par un des fondateurs de la démocratie américaine, qui disait la vérité peut se défendre toute seule. Et ce qu'on apprend, ce qu'on découvre, c'est que non, sur un marché dérégulé des idées, la vérité ne se défend pas toute seule. Mais le problème ne tient pas seulement à la crédulité, car d'autres types de propositions sont de nature à attirer notre attention. Par exemple, la peur, n'est-ce pas ? Par exemple, la violence, la conflictualité, toutes ces choses qui font que, on trouve que le monde numérique est devenu sidérant, mais qu'en même temps, on n'arrive pas à rompre avec lui. Et qu'on n'arrive pas à ne pas aller regarder ces propositions d'une agression, par exemple, etc. Donc il y a quelque chose qui, en nous, comme je dirais, conspire à cet état du marché de l'information.
Ah, vous allez vite, très bien. Donc on a du temps de cerveau beaucoup plus important, du temps disponible qui est siphonné par les écrans, en quelque sorte.
Oui.
On a ce déluge de données, flatte nos goûts pour le sexe, pour le conflit, pour la peur. Ce constat-là, beaucoup peuvent l'exprimer ou y adhérer. Là où vous vous distinguez, Gérald Brunner, c'est que vous pensez, vous, que ce n'est pas l'offre qui crée la demande. C'est pas parce qu'il y a des sites porno que les humains visionnent des milliards de vidéos porno. Vous pensez que c'est la nature profonde de l'homme qui se révèle ? Comment arrivez-vous à cette conclusion ?
Je crois que c'est d'une grande banalité, en fait. De ce point de vue, oui, je pense qu'il y a effectivement un attrait, parce que nous sommes des mammifères. Les êtres humains ne sont pas les seuls à être attirés par des objets de sexualité. Nous sommes des grands singes. La sexualité, ça compte. Ce qui me paraît intéressant sur le temps long de l'histoire, c'est qu'on a cherché, on a produit des récits qui voulaient nous dire le contraire. Par exemple, les grands récits religieux se sont beaucoup, notamment les monothéismes, inscrits contre cette compulsion et cet intérêt pour la sexualité, en cherchant à nous faire croire que finalement, cette compulsion pour la sexualité viendrait d'une tentation extérieure, le diable, ou que sais-je. Aujourd'hui, les récits ont un peu changé. On nous dit que c'est notre environnement, par exemple, numérique, ou le capital, le marché, qui en fait dévoie notre nature. Je rappellerai simplement qu'à chaque fois, que cette proposition a pu naître, c'était bien avant Internet, d'une proposition, par exemple sur la sexualité, puisque le sujet vous intéresse, Patrick.
C'est vous qui le mettez en exergue. Pardon, vous expliquez que c'est la première source.
Ce sont les premières vidéos de loin regardées dans le monde.
Diffusées sur Internet dans le monde.
Un seul site parmi d'autres, c'est vrai, c'est le leader mondial, mais tout de même, annonce 629 000 années de temps de cerveau qui s'évaporent dans la contemplation pornographique chaque année. Donc ça fait beaucoup, mais avant cela, songez au Minitel, par exemple, vous rappelez, cette pointe de la technologie française, ce qui était presque déjà Internet, eh bien, on sait que la moitié du trafic du Minitel était converti pour le Minitel rose. Donc, cette compulsion, si vous voulez, pour cette demande d'image de sexualité, elle n'est pas forcément coupable.
Donc, le réveil de nos instincts au détriment de la raison.
D'un certain nombre d'éléments saillants, en effet, par exemple, la colère, la conflictualité. Je montre dans le livre qu'en fait, on s'intéresse par exemple pour Alain Finkielkraut ou Manuel Valls ou Booba, qui sont des personnalités très différentes, mais très publiques.
Oui, c'est la culture du clash.
Voilà, ce qui nous a intéressé le plus, si on regarde les recherches sur le Google, qui est quasiment monopolistique en France comme moteur de recherche, on voit que de toute leur œuvre, c'est le moment de conflictualité qui nous a intéressé le plus, et c'est profondément inscrit dans notre esprit, puisque des études montrent que lorsqu'on vous présente des dizaines de visages différents, avec des émotions différentes, de la tristesse, de la joie, ce que vous allez voir en premier, ce sur quoi votre cerveau va attirer votre attention, c'est un visage en colère. Parce que la colère représente, dans un monde où je vous rappelle quand même le prédateur depuis toujours, le principal prédateur de l'humain, avant même le moustique de très loin, c'est les autres êtres humains. Donc il y a quelque utilité à être capable de distinguer très vite la colère sur le visage de quelqu'un qui peut être un antagoniste.
Donc la question est de savoir qui nous tire vers le bas. Est-ce que c'est notre cerveau, d'une certaine façon, c'est votre thèse, ou est-ce que c'est l'offre d'Internet et cette masse d'informations qui nous tire? Mais qu'est-ce que vous faites, Gérald Bronner, de l'environnement social, de l'éducation, des normes transmises par les familles, par les enseignants, de ceux que vous appelez les gatekeepers, les portiers qui sont certes affaiblis, qui étaient avant les jusqu'ici et qui le sont encore un peu, ceux qui sont légitime à porter l'information et la parole publique.
En tout cas, je crois qu'il n'y a aucune fatalité dans ce que je décris. Je dirais que dans notre cerveau, qui est l'outil le plus complexe de l'univers connu, 1 000 000 000 milliards de connexions, il y a plein d'histoires différentes possibles. Il n'y a pas de détermination. Mais il y a cette disposition à accueillir un certain nombre d'informations. Donc vous avez raison, l'environnement social est fondamental. Et j'en tiens pleinement compte, puisque en réalité, l'histoire que je raconte, c'est la rencontre de ces dispositions intellectuelle avec une certaine configuration du marché de l'information. Et de tout temps, les cultures humaines ont essayé de tempérer, n'est-ce pas, ces grandes pentes saillantes de notre esprit pour ne pas faire de nous des esclaves de ces espèces de boucles addictives. Seulement voilà, la plupart du temps, on a essayé de le faire en proposant des récits qui étaient en fait des récits trompeurs. J'ai parlé de la religion, j'ai parlé des idéologies. Je pense que c'est pour ça que mon livre s'appelle Apocalypse cognitive. J'annonce pas la fin des temps, Patrick. Hein,
ce que Apocalypse dans le sens de révélation.
Exactement, dans l'étymologie du terme, révélation. Je crois que nous devons, y compris pour construire un discours politique rationnel, en passer par l'acceptation de certains traits constants et de notre nature, en quelque sorte, même si j'aime pas tellement ce terme. C'est-à-dire regarder bien en face l'image un peu grimaçante que dessinent de nous les traces numériques que nous laissons. Nous ne sommes pas assignés définitivement à cela. Ce n'est pas notre destin définitif, mais c'est un risque potentiel.
Donc il faut de la lucidité et le match, si je puis dire, n'est pas joué. Un mot encore sur la crise sanitaire que nous vivons. On a démarré par l'actualité américaine de Trump, la crise. On est toujours en situation d'incertitude. Pourquoi, Gérald Bronner, l'incertitude crée-t-elle naturellement de l'irrationalité ?
Eh bien parce que précisément, là c'est vraiment un sentiment qui est profondément heurtant pour notre cerveau, l'incertitude. J'avais fait, vous savez, ma thèse il y a bien longtemps sur ce sujet, sur l'incertitude. J'ai écrit que sais-je sur la question de l'incertitude. Donc c'est une question qui me passionne et ce que je sais, c'est que de toute façon, le cerveau va toujours trouver des ruses pour réduire, même irrationnellement, cette incertitude. N'est-ce pas ? Parce que l'incertitude, c'est un grand inconfort parce qu'il peut représenter encore un danger. Songez là aussi, en un temps où le monde était particulièrement hostile, eh bien nous sommes un peu une espèce probablement paranoïaque. Quand il y a des faibles probabilités de risque, nous avons tendance à les multiplier intuitivement par 10 ou 15. Nous savons par exemple que nous avons tendance à sous-estimer la distance d'un corps qui se rapproche de nous, de nous-mêmes. C'est un très bel article de Nature qui le montre. Et alors vous pourriez dire, mais pourquoi ? Bah, tout simplement parce que ça nous permet d'étaler plus vite, n'est-ce pas ? Si vous pensez qu'un corps qui se rapproche de vous est à 50 mètres et non pas à 100 mètres comme il l'est, bah, ça vous permet de courir et de vous sauver la vie.
Merci beaucoup Gérald Bronner. Apocalypse cognitive au PUF. Merci à vous.